Chers amis, jeune scout qui a lu la première lecture est un de mes serveurs d'hôtel de la cathédrale, très disponible, et son prénom c'est Joseph. Alors on pense à lui, parce que vous savez que depuis le 8 décembre, nous sommes dans l'année jubilaire Saint-Joseph, et qui nous fait découvrir cette belle figure de Saint-Joseph. Je voudrais commencer mon homélie en vous partageant ce que j'ai vécu au moment de Noël. Je le dis tous ces temps-ci parce que ça me marque encore. J'ai vécu un Noël très particulier. Quelques jours avant cette belle fête, sur mon téléphone portable, l'assurance maladie me dit « Vous êtes cas contact ». De fait, quelques jours avant, j'avais travaillé avec une personne, avec les distances, bien sûr, et ça, mais dans une pièce, et elle dit, il est préférable, par prudence, que vous vous isoliez, voyez personne, jusqu'à telle date, c'est-à-dire le lendemain de Noël, où vous ferez un test, et vous verrez. Test qui s'est avéré négatif. Ça m'a permis d'aller voir quelques jours avec un peu de retard ma maman et puis un peu de famille. Voilà l'évêque qui devait célébrer à Saint-Jean-de-Maurienne le 24 à 17h. J'avais multiplié pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent venir à la chambre à 19h. À la chambre à 21h. J'ai fait un petit mot pour dire, ça ne fera pas. Et le lendemain, à la cathédrale, le 25, cette messe que j'aime beaucoup, puisque on a le début de l'évangile de Jean qui dit, cet enfant qui vient de naître, c'est le Verbe de Dieu, c'est Dieu qui est là. Eh bien, sans l'évêque, dépouillement total. Et j'ai pensé qu'un enfant qui savent tellement bien dire les choses, peut-être un petit scout d'Europe, un petit louveteau, ou une louvette, qui m'aurait dit, « Eh ben, tu vis Noël en vrai, comme Jésus, dépouillé. » J'ai pensé aux personnes isolées, celles qui n'ont personne près d'elles, personne éprouvée, toutes celles qui étaient aussi, par leur métier, obligés de rester là où elles sont et qu'ils pouvaient célébrer Noël. Et puis, je dis, viens comme prêtre. Il faut aussi que tu vives au plus profond de ton cœur ce que tu prêches. Et puis, je me suis dit aussi, viens, quand tu célébreras, tu seras en communion avec le monde entier. Et j'ai dit, tu diras ta messe de minuit à minuit pile. J'ai commencé la messe à minuit, la messe de la veille au soir. Et puis j'ai porté le petit Jésus jusque dans ma crèche, qui était à quelques mètres, pensant ce que j'aurais vécu à la cathédrale. Et j'ai dit, puisqu'il faut vivre au plus profond de soi-même ce que tu dis, et que tu dis tellement, souvent trop facilement, peut-être qu'il faut être heureux quand on est chrétien, la joie au plus profond de soi-même, en toutes circonstances, eh bien tu dois vivre un Noël joyeux. Et j'ai dit, je serai heureux. Et finalement, j'ai été quand même heureux. J'ai quand même été joyeux. Alors, je me suis dit, cette expérience-là, elle t'habite et tu perçois bien qu'elle éclaire ce que tu vis et que ça rejoint profondément la parole de Dieu quand elle t'est adressée. Et aujourd'hui, je trouve que c'est tellement vrai. La première lecture, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dieu prend le plus faible, le plus petit, le plus fragile, pour ses plus grands desseins. Samuel. Moïse qui dit, moi je ne sais pas parler, ne m'envoie pas vers Pharaon. Abraham qui dit, mais je ne sais pas où je vais. Et puis, ses disciples, aujourd'hui, de simples pécheurs, et qui demandent simplement, où est-ce que tu es, Jean-Baptiste? Puisque ce sont ses disciples, dit, suivez-le. Et ils iront jusqu'au martyr. Dieu choisit celui qui est faible ou qui se reconnaît faible. À Noël, il y a les bergers qui viennent dire, derrière l'événement banal d'une naissance, il y a un événement extraordinaire, c'est la venue de Dieu qui se fait l'un d'entre nous. Les bergers le disent, mais qui va les entendre? Des grands savants de l'époque, comme il y en a tellement aujourd'hui. Et c'est bien, les mages, parce qu'ils sont humbles, viennent dire, mais oui, il y a cet événement, nous avons perçu cette étoile et nous essayons de la suivre. Lorsqu'on se reconnaît dans sa faiblesse, nous laissons la place au Seigneur. Et on peut faire des belles écoles d'ingénieurs, des belles écoles, des belles prépas, réussir un très beau concours. Si on n'a pas cette humilité, eh bien, nous risquons d'oublier Dieu et même peut-être de le remplacer. Et il y a cette deuxième lecture très belle où saint Paul, écrivant aux Corinthiens, dit « Votre corps n'est pas fait pour la débauche ». Mais pourquoi dit-il cela? Parce que Corinthe, qui venait d'être reconstruite par César, parce qu'elle avait été détruite par les Romains quand ils ont conquis, avait deux ports où il y avait des échanges de marchandises, des banquiers, des gens qui vraiment faisaient le commerce, et puis il y avait même la prostitution sacrée organisée, puisqu'il y avait une déesse, une espèce d'Aphrodite orientale vers lesquelles on allait, qui permettait que la prostitution se fasse pour la fécondité. Bon, vous connaissez tout cela. Et il y avait même une expression, vivre à la corinthienne. Vous voyez ce que ça voulait dire. Et c'est là que Paul est venu dire le Christ ressuscité. C'est là qu'il est venu dire, nous avons rencontré quelqu'un. Il est mort et il est toujours vivant. C'est Dieu. Et que ça a touché ces personnes. Et il leur dit, mais votre corps, ce n'est pas simplement un amas de cellules. Votre corps, c'est là où tout s'exprime dans la relation aux autres et à Dieu. C'est même le temple de l'esprit. Là où Dieu veut faire sa demeure. Chacun de nous voit la pertinence de cette parole dans le monde d'aujourd'hui. Notre monde qui a redécouvert que lorsqu'il fallait soigner, eh bien, c'était pas simplement une mécanique qu'il fallait maintenir, ce n'était pas simplement des cellules qu'il fallait protéger, que c'était aussi des relations qu'il fallait approfondir. Ce sont les liens qu'il fallait garder et qu'il fallait le faire avec, bien sûr, toutes les prudences qui nous sont demandées et qu'il faut vivre. Le corps, temple de l'esprit. Souvent, j'ai cité saint Camille de Lévis qui disait « Je vais infirmier à l'hôpital comme je vais à l'église. » Même démarche sacrée. Le malade, c'est le Christ. Comme lorsque je le reçois dans mes mains, si fragile. Et son lit, c'est l'autel. Je vois son lit comme quelque chose que je dois respecter autant que je le fais lorsque je suis à l'église. Voyez la pertinence aussi de cette parole. Alors, Je voudrais achever en citant quelqu'un que vous connaissez, vous les jeunes, celui-là. C'est Olivier Giroud. Alors eux, ils savent, c'est un sportif, équipe de France, peut-être qu'il va battre Thierry Henry au niveau du nombre de buts dans un domaine, il a déjà mis plus de 100, et qui est chrétien, footballeur. Il est évangélique, et il témoigne chaque fois qu'il met un but, il montre le doigt, c'est pour dire Jésus. Il sort du terrain, il fait une prière à Jésus. Il est dans un moment difficile, il prie. Quand il réussit, il confie au Seigneur, avec un souci immense de sa famille. Lui, qui raconte que sa maman, quand il avait 13-14 ans, lui a révélé un secret, elle lui a dit, tu sais, Olivier, on ne t'attendait pas. On ne te désirait pas, on avait 3 enfants et on pensait que c'était bien. Et tu es arrivé. Et on t'a aimé, mais il fallait que tu le saches. Il a dit, mais je n'ai connu que d'amour. L'amour m'a accueilli. Et il le raconte. Et dans son livre, Toujours y croire, il y a tout un paragraphe sur la religion. Et il dit ceci, je suis très croyant, c'est ma réalité. Elle peut surprendre, paraître un peu dépassée à notre époque, surtout chez un sportif, mais j'assume ma foi et la revendique haut et fort. Je ne suis pas le seul dans ce milieu à croire en Dieu. Il y a des catholiques pratiquants, des musulmans, comme mon ami Paul Pogba, converti à l'islam depuis quelques années. Nous nous chambrons gentiment sur le sujet, mais nous nous respectons l'un et l'autre, et ils développent. Il y a encore le sportif, pas pour la débauche, comme dirait Paul, mais pour le Christ. Le corps est pour le Christ et le Christ est pour le corps. Et puis j'ai terminé quand même avec un pape. Un pape, un grand pape, toujours parmi nous. Mais alors son physique est un peu éprouvé, qui est très proche du pape François, David Duné, le pape Benoît XVI. Proche géographiquement, mais proche au niveau de la vie spirituelle profonde, qui se complète tellement bien. Et le pape Benoît XVI disait ceci, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Et il avait mis ces quelques mots avant cette phrase, n'ayez pas peur, le Christ n'enlève rien, il donne tout. Eh bien, samedi, quand je te confirmerai, Romain, après avoir reporté tant de fois, on pensera à cette phrase en disant, il t'enlève rien, il te donne tout, il te donne l'Esprit Saint. Comme pour chacun de nous, quand on a été confirmé, comme certains peuvent l'espérer alors qu'ils n'ont pas été encore confirmés. Et avec cette magnifique phrase, nous pouvons nous dire que malgré les difficultés, malgré une situation tellement éprouvante, inattendue, imprévisible, nous restons solides parce que Dieu est notre citadelle, notre rocher, notre appui, notre bouclier, notre force.